Je remercie le Seigneur qu'on puisse être ensemble ce matin. C'est vraiment magnifique qu'on puisse avoir un tel sujet, un tel fardeau. Si nous ne cherchons pas la sainteté et la alors nous n'avons rien. Nous devons voir que le Seigneur est saint. Nous ne sommes pas juste des, nous ne devons pas juste être des chrétiens qui sont chrétiens, puis on se réunit parce qu'on est sauvés. Mais on doit vraiment voir que nous sommes séparés, appelés à être séparés. Et ce n'est pas juste vrai pour certaines personnes, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous. Et j'espère qu'à la fin de cette conférence, on a tous ce désir pour une telle sainteté, une telle sanctification. Et une chose à ce sujet que j'apprécie vraiment, c'est le fait qu'on doit être séparés. J'aimerais aussi partager avec vous quelques versets qui m'ont vraiment parlé dans le psaume 8. Psaume 8. Versets 5 et 6 en français. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Et ça continue. Pas juste il nous a séparés, mais il nous a élevés à une position différente de la création. C'est pas juste une séparation, mais il veut nous amener dans une perfection de travail de sanctification. Un travail, c'est vraiment un travail où il va nous élever dans cette position. Et aussi dans Éphésiens 2, je vous le lis depuis le verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ça nous montre que nous étions juste des gens ordinaires, communs. Et en fait, le terme de commun signifie juste qu'on est comme tout le monde. Et juste faire ce que tout le monde fait, c'est-à-dire les œuvres de la chair, c'est vraiment ce que fait tout le monde, les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Par grâce que vous êtes sauvés, nous a ressuscités ensemble. Il nous a vraiment séparés de tout ce qui est commun et ordinaire. Il nous a ressuscités ensemble. Il ne nous a pas juste séparés, mais il nous a ressuscités. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc maintenant, nous sommes élevés pour être des enfants de Dieu, pour être rois et sacrificateurs, pour être un peuple spécial pour Dieu. Et maintenant, nous sommes assis avec Dieu dans les lieux célestes, avec Christ. C'est vraiment une œuvre magnifique qu'il veut faire. Il veut que nous soyons un peuple saint et spécial. Je vais aussi partager de là où demeure sa sainteté. C'est pas juste que Dieu est saint et on est appelé à être saint, mais aussi nous pouvons voir que là où Dieu demeure, c'est vraiment là où il y a la sainteté. Dans l'Église, dans l'édification de l'Église, tous les services, tout doit être saint. Et donc, on doit avoir cette conscience, parce que c'est là que Dieu habite. C'est vraiment fou quand tu penses à ça. Comment est-ce que Dieu, qui est partout, peut avoir ce désir de demeurer dans des gens? Mais quand tu vois ça, on peut le voir avec le pain à deux. Tout est en lien avec le service. Mais le Seigneur veut vraiment être dans ce peuple qui est sanctifié et séparé. Même nos attitudes et la manière dont on agit dans l'Église. Regardons dans Exode 30. Exode 30. Ça m'a vraiment parlé, c'est vraiment magnifique pour moi. Exode 30, versets 25 à 30. Et dans ces quelques chapitres, juste après que le peuple soit sorti d'Égypte, le Seigneur les a séparés de l'Égypte. Très peu de temps après ça, le Seigneur leur montre verset 19. Exode 19, versets 5 et 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs. Ah, il ne s'arrête pas juste au verset 5. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Il les a sauvés de l'Égypte, pas juste comme de même qu'il nous a sauvés du monde, pas juste pour nous sauver, mais pour avoir ce royaume des sacrificateurs et cette nation sainte. Donc déjà dans Exode, on voit vraiment ce fardeau du Seigneur. Et maintenant, chapitre 30, versets 25 à 30, il parle de l'huile d'onction. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum, selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile, pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. La table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. C'est très intéressant. On lit et on voit au verset 29 tous les détails à propos du tabernacle, à propos de l'autel, l'autel des parfums. Et tous les différents éléments du service du sacerdoce. Mais on voit que même après tout ça, c'est pas juste que le sacrificateur devait porter les bons vêtements, mais il devait être oint avec cette huile sainte. Chaque chose devait être oint. Et cette huile, elle représente l'Esprit Saint, qui est effectif, qu'il y a un effet. Et il doit vraiment remplir toute chose. On ne peut jamais séparer de l'effet vraiment saint de l'esprit. Quand on lit Exode, on peut être un peu... Enfin, dans le Pentateuque, on peut être surpris par tous ces symboles. Et on se dit, oh, c'est juste des ombres de choses célestes. Mais aujourd'hui, ce qui est magnifique, c'est qu'on est dans la véritable expérience de ces choses. Là, ils avaient seulement... Ils devaient vraiment préparer cette huile. Et c'est devenu maintenant la réalité, la substance, parce que Christ a accompli tout ce travail. Et on a vraiment maintenant cet esprit. Maintenant, quand tu lis ça, tu peux vraiment apprécier tout ce que le Seigneur a fait pour nous, pour que l'Église soit sainte. Et c'est vraiment intéressant, parce que c'est pas juste dans le livre dans le Pentateuque, mais c'est vraiment, on voit que le Seigneur appelle. Quand il a été baptisé, le Seigneur a été oint de l'Esprit. Et quand l'Église elle-même a été formée dans Acte 2, on le voit aussi, une des premières choses qui se passe, Acte 2, depuis verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Elles furent tous remplies du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça montre que même maintenant, quand l'Église a commencé, quand l'Église a été établie, elle a été ointe par cet Esprit. Donc cette huile d'onction, elle est vraiment partout. Elle est dans le sacerdoce de Lévitique, mais elle est aussi maintenant dans le sacerdoce. C'est une huile puissante, une huile qui purifie, qui sanctifie. C'est pas juste une action, mais ça a vraiment un effet. Et dans 2 Corinthiens aussi 1, on voit plus à ce sujet, 2 Corinthiens 1, versets 21 et 22. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Là, il parle aussi de l'onction, du sceau. On voit que c'est vraiment en lien. C'est vraiment cet esprit qui nous sanctifie, qui nous sépare. Ça ramène à ce qu'on voit dans Exode. Tous ces ustensiles, le tabernacle, tout était oint avec cette huile sainte. Et maintenant, ça montre de nouveau comment aujourd'hui nous devons être un peuple séparé. C'est pas juste là, mais c'est aussi maintenant pour nous. On voit aussi, après le temps du tabernacle, il y a eu le temps du temple. Et puis quand Salomon a bâti le temple, on voit que tout devait être saint. Verset 2. Mais dans le temple saint, Habacuc 2:20. L'Éternel est dans son temple saint, que toute la terre fasse silence devant lui. Même son temple physique était sanctifié. Et dans les psaumes, psaume 5, psaume 5, 7. Verset 8 en français. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Remercions vraiment le Seigneur pour ce qu'il a fait. Sa grande miséricorde, sinon nous ne pourrions pas nous approcher. Nous devons vraiment nous approcher avec crainte. Et on voit que David avait une telle crainte. Une telle crainte quand il s'approchait de la maison de Dieu. Ayant une telle crainte pour la maison de Dieu. Et parfois on le prend pour acquis. Que oh, c'est tout bon, je peux m'approcher. Mais non, approchons-nous avec crainte. J'aime beaucoup cette attitude de David. Prosterne dans ton saint temple avec crainte. Avons-nous une telle crainte dans notre attitude? Et aussi dans 1 Roi, après que le temple ait été finalement construit, dans 1 Roi 8, verset 6 à 11. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Car les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche, et il couvrait l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que les extrémités se voyaient du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. Elles ont été là jusqu'à ce jour. Il y avait dans l'arche les deux tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël, leur sortie du pays d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. C'est vraiment comme ça que le Seigneur veut obtenir sa maison, que sa gloire soit telle dans la maison que les sacrificateurs ne puissent même pas y tenir. Il veut une maison qui soit tellement sanctifiée qu'il puisse la remplir de sa gloire. Et là, on voit vraiment dans cette ancienne alliance que l'arche de l'alliance était dans le lieu très saint. C'était dans le lieu plus saint que saint. Même dans le temple, il y avait un lieu saint et un lieu encore plus saint. Comme John a partagé hier, il y avait une seule visite par année dans ce lieu. Mais aujourd'hui, on peut vraiment apprécier à quel point ce lieu est saint et malgré tout s'en approcher. Et non seulement le temple était saint, le lieu où était l'arche était saint, mais toute la ville en fait était sanctifiée. Comme on a vu, grand est l'Éternel. Grand est l'Éternel dans la ville sainte, la cité du grand roi. Même la ville elle-même. C'était psaume 48, 2 à 3. Et cette sainteté, on ne peut même pas l'atteindre. Mais grand est l'Éternel. Et quand on chante ce chant, grand est l'Éternel, on est rempli d'une joie. On est assez étrange. Quand on parle de la sainteté, on sent une pression. On est oppressé, on se dit, oh non, on a le concept, oh, je vais être tellement triste parce que je vais chercher la sainteté. Mais regarde ce que les fils de Corée ont écrit. Ces versets, ils sont pleins de joie. Ils ne sont pas tristes, oh la sainteté. Mais vraiment, ils sont remplis de louanges. La ville de notre Dieu sur sa montagne sainte, belle est la colline, joie de toute la terre. C'est vraiment comme ça que la sainteté doit être. Si c'est quelque chose de tellement dur pour nous, c'est qu'il y a quelque chose d'erroné. Dans l'église, nous devons être joyeux. On peut vraiment être reconnaissant aujourd'hui qu'on peut être dans la présence de Dieu. Il y a tellement de versets au propos desquels parler. Je n'ai pas le temps de passer au travers de tous les versets, mais on peut aussi aller Joël 3, 17. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte et les étrangers n'y passeront plus. Les étrangers n'y passeront plus. Pas juste séparés, mais purs. Ça ne signifie pas des gens étranges qui viennent des cieux, d'étranges créatures. Et on a aussi lu Exode 19, mais le peuple devait être sanctifié. On peut lire les versets. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Pardon, versets 5 et 6, Exode 19, 5 et 6. Donc, pas juste le tabernacle et le temple, c'est pas juste ça qui doit être saint, mais même le peuple doit être saint. Tout doit être saint. Pourquoi tu as besoin d'une ville? Une ville, le but c'est d'avoir des gens qui y habitent. Donc tous ceux qui vivent dans cette ville doivent aussi être sanctifiés. Dieu a vraiment choisi un peuple pour y habiter. On est un trésor pour lui. On est quelque chose de précieux pour l'Éternel. C'est pas grave si on n'est pas précieux pour qui que ce soit d'autre, mais on doit être précieux pour le Seigneur. Si on n'est pas précieux pour les gens de ce monde, c'est égal. Rappelez-vous, nous sommes un peuple spécial pour Dieu. On a aussi lu ces versets dans 1 Pierre 2 hier soir. On peut les relire, c'est un bon rappel. 1 Pierre 2, 9. Pas juste. Aujourd'hui, nous sommes les vrais Juifs. Dieu parle des Juifs. Mais en réalité, en fait, il se réfère à nous, au peuple choisi. Donc ne croyons pas que ça s'applique juste aux Juifs. C'est vraiment pour nous. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et verset 10, « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Nous n'étions pas un peuple, on n'était rien de spécial, on était juste des gens ordinaires, dans la mort, dans les ténèbres. Mais le Seigneur nous a appelés, l'Éternel nous a appelés à sortir les ténèbres pour entrer dans son admirable lumière. C'est vraiment spécial, c'est un trésor. Beaucoup de gens ont une idée étrange que je suis juste un chrétien, donc je suis sauvé de l'enfer et c'est tout bon, j'ai la vie éternelle, donc je vais au paradis. Et puis c'est tout bon, je vais à un service le dimanche et puis c'est juste suffisant. Mais est-ce qu'on a cette conscience que nous sommes une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal? Souvent, on n'a pas vraiment d'appréciation pour ça. Nous pouvons vraiment voir. C'est pas quelque chose d'effrayant d'être sanctifié. Ensuite, on voit aussi dans l'Ancien Testament qu'aujourd'hui, l'Église doit être sainte. L'Église n'a rien à voir avec cette terre. Elle n'a rien de commun. Elle n'a rien à voir avec une organisation humaine. C'est pas juste toi et moi, c'est vraiment le fait d'être séparés. On est sur cette terre, on est là pour représenter le royaume de Dieu sur cette terre, et c'est pour ça, parce qu'on est tous dans l'Église, nous devons être un peuple saint. Mais il n'y a aucun moyen que les gens puissent voir et sentir la sainteté et la nature de Dieu si l'Église ne la manifeste pas. Nous devons manifester les caractéristiques de Dieu. On peut prêcher à propos du retour du Seigneur, mais les gens ne vont pas vraiment goûter, sauf s'ils le voient en nous. Et pour le voir et pour le goûter, ça nécessite vraiment de renforcer en nous cette nature. Pour l'ennemi, c'est vraiment facile s'il y a de la corruption au milieu de nous, des choses humaines, de nous abaisser, de nous écraser. Mais le Seigneur veut une église qui soit élevée, un peuple qu'il puisse élever. Et si on emploie des choses humaines pour créer la gloire, alors c'est juste terrestre. On peut aussi lire ce verset qu'on a déjà lu tant de fois dans Éphésiens. Éphésiens 5. Éphésiens 5, versets 25 à 27. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. Ça montre que, sans aucun doute, l'Église doit être sainte. Donc vraiment, nous devons être séparés. Nous devons recevoir cette vie en nous. Il veut nous séparer, nous mettre à part. Même si l'Église est sainte, elle doit encore être perfectionnée. Verset 26, en la sanctifiant, en la purifiant. Sanctifiant, en la purifiant. C'est pas juste suffisant. Elle doit être lavée, elle doit être sanctifiée et lavée par l'eau de la parole. Et la fin, la conclusion, c'est que l'Église soit glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. Ce que le Seigneur aimerait atteindre. Parfois, j'ai rencontré des gens qui cherchent l'Église parfaite. Mais on doit réaliser que, en fait, l'Église doit être sanctifiée pour qu'elle soit pleinement glorieuse. Elle doit être sanctifiée. Nous devons réaliser que nous sommes tous ensemble pour travailler à la sanctification. Bien sûr, il y a des choses que nous n'allons pas pour nous, nous poursuivons vraiment le but que le Seigneur nous a montré. Et nous voyons vraiment que ce que le Seigneur veut, c'est que l'Église soit glorieuse. Il veut vraiment qu'on travaille ensemble à ce but. Le but étant vraiment que nous puissions nous encourager les uns les autres. Et si je regarde à moi-même, je vois à quel point je suis non saint. Et c'est pourquoi j'apprécie vraiment, comme John partageait hier, personne n'est parfait maintenant, même individuellement. Mais c'est faux de dire que c'est impossible. Donc si le Seigneur nous donne l'objectif que chacun individuellement doit être parfait et saint, mais ça signifie que c'est possible et nous devons poursuivre un tel but. Et pareil, si on se dit pour l'Église, non, mais de toute façon, personne n'est parfait, mais on doit chercher, on doit tendre à cette sanctification. Comme la nouvelle Jérusalem qui descend des cieux, elle est parfaite. C'est possible. Dieu achève. Il atteint son but. Est-ce que nous allons y prendre part? Est-ce que nous allons collaborer avec lui pour rendre cela possible? Ou bien on va juste dire, oh non, ça ne va jamais arriver, je ne serai jamais parfait, l'Église non plus. Oh non, c'est bon, je fais juste ce que je veux. C'est une attitude fausse. C'est pourquoi le Seigneur doit nous changer. Une fois qu'on voit le but, cet objectif, alors, une fois qu'on voit ce but, on peut vraiment avancer. Et c'est un verset encourageant. Alors que le Seigneur révèle le... Colossiens 1, 27. Tu as voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Christ est l'espérance. Il est notre espérance pour nous perfectionner. C'est pour ça qu'il peut dire nous annonçons, exhortons, instruisons. Amen. C'est à quoi je travaille en combattant, pas avec sa propre force, mais avec la force du Seigneur qui agit puissamment. Amen. C'est comme ça que Dieu obtiendra un lieu où il puisse habiter. Nous devons avoir une telle prière et croire que c'est possible. Christ est cette... Christ peut le faire. Et puis, il y a du travail, mais que ça ne nous attriste pas, que ça ne nous tire pas en bas. Et on a aussi parlé en première réunion comment les Lévites ont dû se séparer. Et ils n'ont pas attendu que l'Esprit les pousse en avant, mais ils ont dû eux faire le pas d'avancer. Ils ont dû eux-mêmes bouger leurs pieds. Que le Seigneur nous donne la force de faire cela. J'aimerais juste rapidement résumer les deux messages de ce matin au sujet de la purification et de la sainteté. La première signification du terme sanctifié signifie la séparation. On doit être séparé. Ne continue pas sur une voie fausse. Si tu sais que tu vas dans une mauvaise direction, tu tournes. Tu ne dis pas juste « Oh, zut, je vais dans la mauvaise direction » et tu continues. Non, quand tu réalises que c'est faux, tu fais demi-tour. Tu fais un demi-tour. Et comme le Seigneur, comme le frère l'a montré, on voit que Dieu est un Dieu saint. Tout ce qui lui correspond est saint, il n'y a pas de mélange. Alors que ce que Satan essaie de faire dans ce monde, c'est un gros mélange de tout. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Plus personne ne sait à la fin ce qu'il est. Même au Canada, quand un enfant... Quand un enfant naît au Canada, tu décides, tu peux même pas écrire si c'est un garçon ou une fille, parce que tu lui laisseras le choix. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment diabolique. Et même comme au temps de Noé, quand les anges sont descendus, alors qu'ils auraient dû rester dans leur nature différente, sanctifiée, alors ils sont mélangés aux hommes, et là il y a eu du mélange. Regarde aujourd'hui cette parole. Regarde cela. Si tu n'es pas clair, même si tu es un homme ou une femme, tu vas où, aux toilettes? Tout ce que les gens disent, c'est qu'ils veulent la libération, ils veulent être libres. Mais non, il ne faut aucun mélange. Parce que le mélange est vraiment non saint. On doit vraiment croire dans la parole du Seigneur. Quand on voit tous ces versets depuis Genèse, ne crois pas que le mélange soit tolérable. Mais qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Quand il y a eu du mélange, il a retiré sa gloire, et non seulement ça, mais il a envoyé le roi de Babylone et il a détruit toute la ville. Donc la séparation est très importante. Ne sous-estime pas la séparation. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Non. La première définition de la sainteté et la sanctification, c'est vraiment d'être séparé. Et ensuite, le deuxième aspect, c'est vraiment l'onction. L'onction sainte. Tu peux être séparé. Mais si tu n'es pas oint, tu n'es pas saint. Donc, ces deux aspects sont vraiment importants. D'abord, la séparation. Parce que c'est le premier pas pour pouvoir être oint. D'abord, être séparé. Tu dois d'abord être séparé. Une fois que tu es séparé, alors tu peux être oint. Ensuite, l'esprit peut venir en toi. Tout, quand le temple a été bâti, a dû être oint. Tout, les habits. Sans onction, ce n'est pas possible. Même chaque ustensile a dû être oint. Chaque chose que Dieu emploie doit être oint, parce que Dieu est saint. C'est pas juste ok, c'est bon, c'est fait, ça a été fabriqué, mais ça doit être. ou un. C'est vraiment comme ça que la sanctification vient. Une fois que c'est séparé, ça doit être loin pour être saint. Si nous parlons, si nous disons la parole de Dieu, Pierre a dit, c'est difficile pour l'esprit de faire bouger un homme qui n'est pas oint. Et si tu veux parler par l'esprit, ce n'est pas possible si tu n'es pas oint. Mais tout ce que nous faisons dans la vie de l'Église doit être saint. C'est vraiment deux aspects importants. D'abord, la séparation. Toujours voir cette œuvre de séparation que Dieu fait. Mon expérience dans les derniers 50 ans, c'est que le Seigneur a toujours séparé. Les hommes font des divisions, ils se battent. Mais sans séparation, Dieu ne peut pas aller de l'avant. Donc la séparation par le Seigneur est positive, mais la division est négative, elle est humaine. Il y a une séparation, un travail de séparation. Louis le Seigneur. Merci pour ces deux magnifiques définitions que le Seigneur nous a données. D'abord la séparation et ensuite l'onction. Si on a ces deux, alors le Seigneur aura un chemin avec nous. Amen. Jean 2. On ne devrait rien avoir. Ce monde me dit qu'on doit être séparés. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient de Dieu. Verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Et verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. On voit vraiment dans ce chapitre qu'il y a de nouveau une séparation du monde et qu'il y a aussi cette onction. Ça nous enseigne vraiment. Amen. Le Seigneur, pour ces deux éléments, c'est pour une compréhension basique des choses de l'esprit. D'abord la séparation, ensuite l'onction.